serait sauvé, ça c'est clair. Donc c'est un ensemble, ressources humaines, infrastructures, formation, vision, monitoring, sanctions.
Des sanctions contre les mauvais agents.
Quand les gens ne font pas le travail pour lequel ils sont payés, sanctions, tout ça mis ensemble fait que si tout ça était amélioré, je suis sûre qu'il y aurait un mieux dans la mortalité de notre population.
La Fondation a mis en place un grand laboratoire. Quel est l'impact de ce laboratoire au sein de la population et dans le milieu scientifique africain?
Au sein de la population, je ne dirais pas que l'impact est visible pour le moment parce que nous formons par exemple des jeunes docteurs.
Former un docteur, ça demande beaucoup de temps, c'est un investissement à long terme.
La formation d'un docteur, c'est au minimum 3 ans, maximum 5 ans. Donc c'est un investissement sur le long terme et ensuite il va travailler et là devient productif.
Combien de docteurs avez-vous déjà formés, si vous pouvez connaître le nombre ou de façon approximative?
Nous avons maintenant formé plus d'une dizaine de jeunes docteurs congolais qui sont déployés dans le pays et c'est un nouvel esprit que nous insufflons. Donc pour moi, je pense qu'on commencera à voir l'impact de la fondation dans les 5-10 prochaines années. Oui, on se rendra compte, tiens, j'ai été formé à un moment donné ou à un autre par la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Et j'agis de telle manière parce que c'est ça ma formation.
Quel est le profit des personnes que vous formez? Seulement des scientifiques?
Nous ne formons pas seulement scientifiquement, mais aussi moralement, en faisant comprendre quelle est notre responsabilité. C'est-à-dire que les moyens que nous mettons sur la tête de nos étudiants, on leur dit que ce n'est pas pour leurs beaux yeux, c'est pour pouvoir rendre ça, pas à la fondation, mais c'est rendre cet investissement au pays. Et ça, ils le comprennent bien. Et je pense que quand nous aurons comme ça une centaine, 200, plusieurs formés avec cet esprit, l'impact alors sera visible, surtout qu'ils sont compétitifs, ils seront capables d'aller chercher l'argent. Là, moi, je suis, entre guillemets, seule dans cet exercice. Mais imaginons qu'il y ait une centaine comme ça. Bah, après, on aurait beaucoup, beaucoup de possibilités dans le pays. Et
vous faites aussi un travail de sensibilisation sur les filières scientifiques. Qu'est-ce que ça donne comme résultat?
Déjà, avec notre programme Femmes et Sciences, la visibilité que nous mettons sur la recherche, l'impact est déjà là. Beaucoup de jeunes gens sont de plus en plus conscients et veulent se lancer dans la recherche. Donc là, déjà, il y a un impact dans l'intérêt, dans la volonté de vouloir s'engager dans la recherche. Donc je pense que là, nous voyons une courbe qui croît. On a une progression vraiment importante des demandes, même on ne peut pas les satisfaire toutes, mais on voit les demandes, on voit l'intérêt même des parents qui viennent poser des questions, qui veulent qu'on conseille leurs enfants. Donc l'impact est là.
C'est très intéressant que les gens viennent vous voir maintenant, mais du coup ça veut dire qu'avant ce n'était pas comme ça.
Il y avait peu de jeunes intéressés à la recherche biomédicale, et pas qu'à la recherche biomédicale, à la recherche tout court. Bah, parce que déjà, à l'image du chercheur au Congo, c'est un pauvre le chercheur. Il fait pitié le chercheur au Congo. Il a un salaire de misère. Il fait plus de 10 ans d'études, mais il a un salaire de misère. Personne n'a envie de faire 10 ans d'études et ressembler à un miséreux. Alors qu'un médecin, pour le même nombre d'années, le métier est valorisé. Un scientifique, pour le même nombre d'années, voire plus, c'est un métier peu valorisé. Il n'a pas les moyens, on ne lui donne pas les moyens de travailler, on ne lui donne pas le salaire en reconnaissance de sa formation. Pensez-vous que cela donne envie? Bien sûr que non. Donc il fallait donner une image positive de ce métier et c'est ce que la Fondation congolaise a essayé de faire.
Dans la pratique, comment se passe cette valorisation? Comment vous y prenez-vous pour valoriser les filières scientifiques ou la recherche médicale?
En donnant à ceux qui travaillent, en tout cas à la Fondation, un salaire décent qui leur permette de vivre correctement et de montrer qu'on peut s'épanouir dans la recherche au Congo. Mais pour ça, il faut savoir aller chercher ces financements en attendant que le pays puisse mettre sur la table les moyens que l'on met réellement sur la table d'un chercheur pour qu'il réponde aux besoins du pays. Il fallait se redonner une image positive. Bon, moi, je suis venue de l'extérieur avec cette image positive parce qu'on ne s'engage pas dans la recherche pour être milliardaire.
Ça serait donc par passion?
Oui, il faut aller dans la recherche privée, dans l'industrie pharmaceutique. Mais on ne va pas à l'université ou dans une institution de recherche pour être riche, non. C'est parce qu'on est passionné par la recherche. Mais on peut être passionné, mais pour autant, on veut pouvoir nourrir sa famille. On veut pouvoir vivre décemment de son travail. Donc ça, c'était important de montrer que c'était possible de vivre décemment au Congo en étant scientifique. Mais il faut que le pays puisse encourager correctement ces scientifiques.
Comment pourrait-on encourager les jeunes à embrasser des domaines comme la recherche médicale?
Pour les encourager correctement, il faut qu'ils aient compris quel est le poids du chercheur. Parce que là, le chercheur était minimisé parce que je pense que nos autorités ne mesurent pas ou ne mesuraient pas l'importance du scientifique. Dans le monde entier, ailleurs, tous les pays industrialisés ont compris. La Chine a progressé très vite. Pourquoi? Mais parce qu'elle a su faire revenir tous ces scientifiques formés aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez bien que vous allez dans les laboratoires, les trois quarts, il y a beaucoup d'Asiatiques. Et ce sont eux qui tiennent les labos, c'est eux la connaissance. Si on sait faire revenir sa diaspora, qui a une très bonne connaissance, mais cette diaspora va faire un bond dans le pays.
Et cela pourrait booster les progrès.
Et quand si on leur met les moyens d'utiliser ce qu'ils ont appris ailleurs, les progrès vont aller extrêmement vite. Les autres ont compris ça, donc il faut faire revenir les scientifiques congolais qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, pour qu'ils viennent appliquer ce qu'ils ont appris là-bas, ici.
Comment s'y prendre pour attirer ces scientifiques qui sont à l'extérieur?
Pour les attirer, il faut qu'ils puissent nourrir leur famille. Il faut qu'ils puissent vivre correctement. Sinon, personne ne viendra, bien entendu. Personne. Les gens, quand même, veulent vivre correctement. Ils n'ont pas fait 15 ans, 10 ans d'études pour vivre comme des mendiants. C'est pas possible. C'est pas possible.
Ça fait 10 ans, presque 11 ans, que la Fondation congolaise pour la recherche médicale existe. Quels sont vos projets d'avenir?
Oh, les projets, bah, c'est continuer, c'est augmenter. Nous mettons en place des équipes multidisciplinaires. Par exemple, on a formé un bioinformaticien. C'est le premier bioinformaticien formé. Nous voulons que lui puisse former plusieurs bioinformaticiens, plusieurs, qui est beaucoup de biostatisticiens en recherche biomédicale et en sciences humaines. Donc, on veut que dans chaque discipline, il y ait une pépinière. Ça, c'est notre vision. Maintenant, au niveau de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, nous avons maintenant un centre de recherche sur les maladies infectieuses qui est soutenu par la Fondation Mérieux.
La Fondation, elle a des partenaires qui la soutiennent financièrement?
De plus en plus de bailleurs de fonds internationaux qui voient que ce que nous faisons un travail de qualité, ben je voudrais que la Fondation devienne de plus en plus puissante, de plus en plus forte, qu'elle puisse mieux répondre aux besoins, mieux assister le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, mieux l'appuyer pour pouvoir répondre aux besoins de santé de la population. Parce que, encore une fois, on ne peut pas tout attendre aussi du gouvernement. Quand on regarde la recherche en France, par exemple, que je connais bien, il y a le secteur privé et le secteur gouvernemental, le secteur public. Il faut que les deux marchent main dans la main. Et pour qu'au Congo, si on veut que ça fonctionne, il faut la même chose. Je ne vois pas pourquoi dans les pays dits développés, ils ont compris que le secteur public à lui seul ne peut pas s'en sortir et qu'au Congo, le secteur public serait champion et pourrait s'en sortir. Ce n'est pas vrai.
Professeur, quelle est alors votre vision?
Pour moi, la vision, c'est que la Fondation soit de plus en plus forte pour pouvoir jouer encore mieux son rôle, qu'il y ait un impact visible. Je voudrais qu'il y ait un impact visible sur la population, sur la santé de la population congolaise.
Merci beaucoup, professeur. Mais la recherche en général était un domaine plutôt dominé par les hommes. Comment appréciez-vous l'engagement des femmes dans le domaine de la recherche médicale, soit au Congo, soit en Afrique?
Dans la recherche scientifique, en Afrique, il y a environ 30% de femmes. Au Congo, on est à 10-13% selon l'UNESCO. Bon, c'est pas beaucoup, c'est très faible. On est parmi les derniers. Donc, l'engagement des femmes dans les sciences est encore faible. Il y a un effort, là aussi, les stéréotypes sur les femmes engagées dans les sciences sont négatifs et donc ne donnent pas l'envie aux femmes de s'engager. Et là aussi, il faut donc casser ces stéréotypes et la Fondation congolaise pour la recherche médicale s'y emploie.
Comment vous y prenez-vous?
en menant des campagnes de sensibilisation au sein de la population, dans les écoles, à l'université, à la télévision, à la radio. Déjà, moi, je suis une femme et je dirige la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale. C'est la première fondation de ce type au Congo, bon, dirigée par une femme.
Un très bel exemple.
Je pense que j'ai montré qu'en tant que femme, j'ai pu, à titre personnel, montrer que j'étais une bonne scientifique. Donc, je montre par mon exemple que c'est possible pour une femme congolaise d'avoir du succès dans les sciences. Et donc ça, c'était important aussi de montrer cela parce qu'en Afrique, il y a un manque cruel de modèles auxquels les jeunes puissent s'identifier. Parce que quand on a 10, 12 ans, on a envie de ressembler à quelqu'un. Nous nous employons à essayer de mettre en lumière les femmes scientifiques pour donner envie aux jeunes filles, aux élèves, aux écolières, de rêver de devenir des femmes scientifiques.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir été notre invité pour cette émission.
Ben, c'est moi qui vous remercie pour cet entretien.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'était l'interview que nous a accordé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Maintenant, vous allez suivre Carnet de Santé avec Linor Moudou.
Cette semaine dans Carnet de Santé, à quand le vaccin contre le Covid-19 ? Un expert nous en dit plus. Des professionnels de la santé partagent leur expérience face à la pandémie. Ensuite, un petit distillateur aux États-Unis produit des désinfectants indispensables pour lutter contre le coronavirus. Enfin, Pata Pata est de retour. La chanson de renommée mondiale de Myriam Makeba est réinventée pour la sensibilisation à Covid-19. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Salut et bienvenue sur votre émission Carnet de Santé. Nous sommes toujours en dehors de nos studios afin d'observer la distanciation sociale. La pandémie de coronavirus Covid-19 a apporté un changement radical dans plusieurs aspects de la vie au quotidien. Alors que les chercheurs se démènent pour trouver des solutions de prévention et de traitement, des mesures telles que le lavage fréquent des mains et la distance physique continuent d'être adoptées afin de contrôler la propagation du virus. Les experts en santé l'affirment, trouver un vaccin contre le Covid-19 sera une étape majeure dans la prévention de la maladie à l'échelle mondiale. Plusieurs études sont en cours présentement afin de développer un tel vaccin, mais aucun vaccin n'a terminé des essais cliniques. Plus de 90 recherches sont en cours dans le monde pour élaborer un vaccin contre le SARS-CoV-2 et plusieurs ont commencé les essais cliniques sur l'homme. À quand donc un vaccin contre le Covid-19? Voici les explications de l'épidémiologiste Dr Sona Konaté durant un forum virtuel organisé par la Voix de l'Amérique.
Il faut savoir que pour développer un vaccin, c'est pas si simple que ça. Il faut du temps d'abord. Le vaccin doit être conçu. Il doit être d'abord testé sur les animaux. Il doit être testé sur les humains. Il doit être évalué. On doit voir l'effet clinique, l'effet que ça fait physique. Et maintenant, après, il y a toute une série d'approbations par les autorités médicales, pharmaceutiques, sanitaires du pays. Et après, le vaccin peut mettre maintenant, s'il est approuvé, c'est-à-dire s'il a une certaine sécurité sur la santé humaine, là maintenant on peut le commercialiser pour qu'il soit utilisé par les êtres humains. Et dans ce cas-là, il faut savoir que le Covid-19 a commencé en décembre 2019. C'est déjà un grand pas que la communauté scientifique mondiale pharmacologique se soit mise sur pied pour pouvoir déjà commencer à mettre un vaccin sur pied. Ici aux États-Unis, par exemple, où je réside, où je travaille, je sais qu'il y a eu déjà des essais cliniques il y a quelques semaines. Les premiers patients ont reçu les premiers vaccins. Et donc maintenant, on attend maintenant de voir les effets. Je sais que quand on leur injecte un vaccin, il y a des prélèvements sanguins qui se font de manière périodique. C'est cela, c'est pour voir un peu l'évolution de la réponse immunitaire dans le sang. Donc, ils vont voir un peu comment ces patients sont en train de répondre et si ce vaccin vraiment peut être utilisé à grande échelle et de manière sauve sur l'être humain. C'est pour ça que ça prend du temps. On comprend l'urgence, on comprend que tout le monde est pressé d'avoir un vaccin, mais il faut aussi tenir compte aussi de la validité de ce vaccin aussi. Le fait que ce vaccin ne soit pas plus nocif qu'il soit utile. Donc, je pense qu'entre-temps, avant qu'on reçoive, on ait un vaccin viable qui sera prêt à l'utilisation à grande échelle.
Dans notre nouvelle rubrique, à vous la parole, nous vous donnons la possibilité de partager vos réflexions ou votre expérience concernant la pandémie de coronavirus ou éventuellement d'autres sujets de santé qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, nous avons recueilli le témoignage de certains professionnels de la santé qui, chaque jour, font face au Covid-19 dans leur travail. Du Nigeria à l'Italie, en passant par l'Afrique du Sud, voici leur témoignage.
Nous essayons autant que possible de garder tout le monde en sécurité. Nous travaillons en équipe et faisons des rotations par semaine, n'opérant qu'avec deux pharmacies, mais nous semblons avoir explosion de patients chaque jour. Nous essayons de garder le personnel calme, car chaque éternuement, chaque toux qui entre dans la porte est un risque potentiel pour nous tous. Nous avons mis du Perspex avec une bande entre nous et les patients. Nous avons mis des autocollants sur le sol pour qu'ils sachent où se tenir, mais tout le monde a toujours peur. Chaque fois que quelqu'un tousse à la pharmacie, tout le monde regarde autour de soi. Et tout le monde ignore ce qui se passe à l'extérieur. Beaucoup de gens font la queue pour entrer dans la pharmacie et ça ne diminue pas. Ils sont là du matin au soir. Espérons que ceci finira, que les gens commenceront à se rendre compte des dangers et resteront en quarantaine chez eux, loin du public, pour la sécurité de tout le monde.
Moi, j'ai travaillé ici, j'ai continué à travailler ici en Italie, en Lombardie, la région la plus touchée à Bergamo, la plus alors touchée. Dans des hôpitaux, il y a eu un taux très, 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 très élevé de patients où on s'est retrouvé dans des thérapies intensives qui contenaient par exemple 12 lits. On s'est retrouvé avec 400 personnes. Alors je suis engagée pour visiter les malades Covid. J'ai visité beaucoup de maisons. On voyait les médecins qui devraient aider les malades en train de mourir. Il y a un groupe de médecins qui étaient déjà internés à l'hôpital, qui ne pouvaient pas sortir. Donc psychologiquement, cette histoire ici a marqué négativement beaucoup.
Dans la lutte contre Covid-19, les travailleurs de première ligne sont les professionnels de la santé ainsi que de nombreuses personnes dans divers secteurs professionnels pour assurer notre santé et notre bien-être durant ces moments difficiles. Un grand merci. Ici aux États-Unis, une pénurie de produits nettoyants et désinfectants a fait surface pendant la pandémie de coronavirus, laissant de nombreuses personnes à la recherche de certains produits indispensables. Cela a incité des entreprises comme un petit distillateur à Falls Church en Virginie à trouver des moyens créatifs pour aider.
Le désinfectant pour les mains est l'un des produits que les Américains ont le plus stocké depuis le début de la pandémie du coronavirus et cela a laissé des étagères vides.
Okay, we ready?
Pour répondre à la demande, certains entrepreneurs fabriquent des désinfectants à haute teneur d'alcool. Okay. La distillerie de Falls Church fait partie de ces entreprises. Connue pour sa production de whisky, FC Distillery fabrique des désinfectants pour les mains.
Nous nous sommes tournés vers la désinfection. C'est les mêmes processus, les mêmes whisky, les liqueurs de base utilisées dans la fabrication de beaucoup de nos autres produits.
Mais la production dépend de l'accès aux matières premières.
Là, nous produisons actuellement 300 gallons de désinfectants. Nous pourrions facilement le faire tous les jours si nous pouvons obtenir les fournitures. Nous pouvons obtenir les fournitures que tous les deux ou trois jours parce qu'il n'y a pas beaucoup de camionneurs voiture sur la route.
Les employés se disent heureux de changer de modèle d'entreprise car cela aide la communauté locale et leur permet de continuer à travailler.
Je suis allée sur Amazon juste pour voir ce qui était disponible là-bas et il semble que les gens anarchent tout le monde. Donc c'est bien d'aider la communauté locale tout en ayant un emploi. Je me sens vraiment chanceuse au fait.
Les habitants disent qu'ils apprécient l'effort.
Très bien, je sais qu'il aurait probablement aimé faire autre chose que du désinfectant. Mais c'est une excellente idée. Combler un vide sur le marché, mettre sur pied des petites entreprises et travailler ensemble pour y parvenir.
Paluzzi dit qu'il est essentiel de remonter le moral des gens et de ne pas profiter de leurs craintes en faisant grimper les prix.
Le prix en ce moment est important pour nous. C'est très, très important pour nous de ne pas majorer. Vous voyez des gens acheter du papier hygiénique, des désinfectants pour les mains et puis essayer de les vendre à des prix exorbitants. Alors, cela fait partie de notre lutte ici, en plus du besoin de la réponse raisonnable à ce besoin.
Stavros dit que cette nouvelle approche pourrait durer plus longtemps que prévu.
Cela nous occupera pendant un certain temps, j'en suis sûr. Tant qu'il y a besoin de désinfectants pour les mains, nous serons ici, probablement pour les prochains mois, comme ça on a l'air.
Je pense que nous essayons tous de faire ce que nous pouvons. Je pense que voir ces petites entreprises venir en renfort et fournir ce type de service est fantastique.
FC Distillery vend actuellement ses désinfectants pour 29$ le gallon, ce qui, selon Paluzzi, représente près de la moitié du prix du marché. La société promet également de mettre de côté 5000 onces pour remplir des bouteilles de 5 onces qu'elle offrira gratuitement.
L'UNICEF a réédité Pata Pata, la chanson de la défunte Myriam Makeba, artiste de renommée mondiale, récompensée au Grammy Award. Enregistré par l'ambassadrice itinérante d'UNICEF, Angélique Kidjo, les nouvelles paroles visent à sensibiliser le public sur le Covid-19. Il n'y a pas eu de modification des accords, mais plusieurs changements dans les paroles. Pata Pata, qui signifie « touche tous » dans la langue Kosa, a été écrit par Myriam Makeba, qui l'a baptisé du nom d'un mouvement de danse populaire à Johannesburg de l'époque. La nouvelle version comprend des paroles telles que « nous devons garder les mains propres, donc nos Pata Pata. Ne touchez pas votre visage, gardez vos distances. » Les représentants de l'UNICEF disent que la chanson est également destinée à répandre de la joie dans ces moments difficiles. Pata Pata est considérée comme la chanson la plus joyeuse du monde. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le nouveau coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et vos réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @lenormozou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment. Portez-vous bien et à très bientôt.
C'est ici que prend fin notre magazine Santé, votre avenir de cette semaine. Il était consacré à l'impact de la recherche biomédicale en Afrique sur la santé des populations. Nous avons interviewé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Ensuite, vous avez suivi Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Ce rendez-vous santé a été réalisé grâce au concours de Chef Thiro et de Nelson Lopez qui était à la console. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.